France Musique.
Versailles ou ses jardins en pas de danse. En sortant du château par le vestibule de la cour de marbre, on ira sur la terrasse. Il faut s'arrêter sur le haut des degrés pour considérer la situation des parterres des pièces d'eau et les fontaines des cabinets. Il faut ensuite aller droit sur le haut de la tône et faire une pause pour considérer la tône, les lézards, les rampes, les statues, l'allée royale, l'Apollon, le canal. Et puis se tourner pour voir le parterre et le château. Il faut après tourner à gauche pour aller passer entre les sphinx. En marchant, il faut faire une pause pour voir le parterre du midi. Et après, on ira droit sur le haut de l'orangerie, d'où l'on verra le parterre des orangers et la pièce d'eau des Suisses. On tournera à droite. On montera entre l'Apollon de bronze et le Lantin. Et l'on fera une pause au corps avancé, d'où l'on voit Bacchus et Saturne. C'est en qualité d'ancien danseur que Louis XIV nous conduit à travers les jardins de Versailles. La musique accompagne alors le pas des promeneurs. Le roi se plaît à fréquenter quotidiennement ces jardins, que ce soit à pied, en carrosse ou encore dans des chaises roulantes damassées. Les recommandations du monarque témoignent non seulement d'une conception dynamique des jardins, mais elles développent aussi une chorégraphie du regard. Il nous invite régulièrement à nous retourner pour considérer le chemin parcouru, marquer une brève pause, embrasser du regard le chemin à parcourir. Autant d'attitudes apparentées au déroulement d'une danse de bal. Ainsi, parvenu au point de vue du bas de la tône, le spectateur doit se tourner vers les quatre directions octogonales, mais aussi vers deux directions diagonales. Comportement que l'on peut rapprocher des œillades obliques fréquentes durant la danse. Les danseurs ont aussi devant eux l'espace qu'ils vont parcourir ou qu'ils ont parcouru, et donc celui qu'ils construisent. Cette promenade aux côtés de Louis XIV, ou l'art du mouvement par excellence, nous invite surtout à juger d'un jardin ou l'une de ses parties. À la manière d'un spectacle, il se déploie avant tout pour être contemplé, exploré par ses visiteurs. Il offre une réserve de possibles à une expérience sensible, chaque fois différente. Tout naît de la relation entre le corps et l'espace, fondement de la danse. Le jardin serait-il alors un art à deux temps ? Car ce sont les visiteurs qui cheminent d'un pas grave et noble sur un rythme de marche volontiers solennel. Peut-être d'ailleurs comparable au pas grave ou temps de courante dans sa rythme ternaire et tempo lent, mais aussi au mouvement des jardiniers, car leurs gestes de chaque jour, de chaque saison, permettent que les volumes, les couleurs, les textures se perpétuent et se renouvellent. Art de modeler l'espace à partir du corps et à travers lui, le jardin et la danse tissent des relations subtiles que Louis XIV met en valeur au cours de son règne. Le jardin est alors un lieu scénique, investi et métamorphosé à l'occasion de fêtes. D'un espace chorégraphique, il se transforme peu à peu. Par un rituel précis du parcours, tel un spectacle, il devient alors un espace chorégraphié. Domaine privilégié de la vie de cour, le jardin et la danse entretiennent à Versailles des relations fécondes. Elles s'inscrivent dans la longue histoire des rapports entre jardin et théâtre. Il suffit de nous souvenir de la fête organisée aux Tuileries un siècle plus tôt, en 1573, lorsque Catherine de Médicis reçoit les ambassadeurs de Varsovie venus offrir la couronne de Pologne au duc d'Anjou, futur Henri III. Un grand ballet est alors organisé. L'idée d'exploiter le jardin comme lieu scénique, en particulier pour les spectacles de danse, trouve à Versailles des manifestations diverses à travers l'évolution du dessin des jardins et de leur utilisation. Ce sont d'abord sur des espaces suffisamment dégagés que sont installés des dispositifs scénographiques. Ainsi, en mai 1664, les plaisirs de l'île enchantée se déroulent sur l'allée royale, devant le bassin des Cygnes, le futur bassin d'Apollon. Il compte notamment un carrousel en l'honneur d'Apollon et une comédie-ballet de Molière et Lully, La princesse des Lides. Lors de la fête du 18 juillet 1668, la cour assiste à plusieurs divertissements organisés au croisement d'allées, où seront installées par la suite les fontaines dédiées aux quatre saisons. Les architectures éphémères réalisées pour l'occasion seront même laissées en place pendant quelque temps, comme l'atteste le poète Jean de La Fontaine en 1669 dans Les Amours de Psyché et de Cupidon. Les premières fêtes se rattachent à l'esthétique de l'émerveillement et de l'illusion développée au XVIe siècle et participent au mythe de Versailles comme domaine enchanté. Ainsi, lors des divertissements organisés durant l'été 1674, le jeu de miroir entre espace réel et espace fictif atteint un degré supplémentaire grâce à l'avancement des travaux. La tragédie lyrique Alceste de Lully et Quinault est représentée dans la cour de marbre. Sur les côtés, des caisses d'orangers sont disposées régulièrement à la manière de portants. Le jardin devient ainsi le motif des scénographies, en particulier pour les prologues. Comme ils rendent directement hommage au souverain, ils sont volontiers placés dans un lieu lui faisant référence. Précédé de l'allée royale, le château de Versailles apparaît ainsi sur la scène de la salle des ballets de Saint-Germain-en-Laye pour la création de Thésée en 1675. On utilise cette même perspective pour le prologue au ballet de la jeunesse de Delalande, créé en 1686 à la salle de la Comédie de Versailles. Cette poétique du jardin comme espace chorégraphique se retrouve dans de nombreux portraits de danseurs figurant sur les costumes de Psyché ou des Triomphes de l'amour. Sur les gravures, les figures sont alors situées devant un jardin, souvent identifiable. Enfin, certains bosquets sont spécifiquement aménagés en tant que lieu scénique. Ainsi, le théâtre d'eau, composé d'un côté d'un orchestre bordé de gradins, de l'autre d'une scène surélevée qui s'ouvre sur trois allées convergentes, tracées de manière à en accélérer la perspective. L'eau se déverse en cascade, suivant la typologie des théâtres d'acqua, élaborée dans les villas de Frascati au début du XVIIe siècle, et elle jaillit en d'innombrables jets. Cette infinie variété des jeux d'eau retient avant tout l'œil du roi. Admiré pour seul spectacle des eaux, on y donne une collation durant les fêtes de 1674. À la salle de bal, le même plan scénique, plan ovale et non circulaire, est également associé à l'écoulement et au jaillissement des eaux. Une île ceinturée de bassins offre alors aux danseurs l'espace de leurs évolutions. Quant au parterre de broderie, le nôtre, paysagiste attitré de Louis XIV, disait qu'il n'était que pour les nourrices. Ne pouvant quitter leurs enfants des yeux, elles s'y promenaient et les admiraient du second étage. Ils n'en faisaient aucune estime, car on ne s'y promenait jamais. L'art français des jardiniers de la fin du XVIIe siècle ne se laisse pas réduire aux arabesques formées de buis finement taillés. Le mérite de Le Nôtre consiste surtout dans l'élargissement du jardin par la mise en relation du château avec le paysage environnant, à travers de savants jeux de perspective. Le parterre de broderie n'obtient donc qu'une position inférieure dans la hiérarchie des éléments composant le jardin. Parce que l'on ne s'y promène jamais, ou tout au plus avec les yeux. Et c'est bien de cela dont il s'agit, d'une image, d'une représentation, d'une notation qui permet dès lors une promenade virtuelle oculaire. C'est justement dans le détail des effets ornementaux que nous retrouvons une dynamique commune aux deux expressions artistiques, que sont la danse et l'art des jardins. Quand les formules ornementales dans les jardins rejoignent celles des chorégraphies ou le jardin comme lieu de représentation, c'est surtout l'affirmation de l'interaction entre danse et jardin dans la seconde moitié du XVIIe siècle et de ce qu'elle révèle des rapports entre spatialité et pouvoir. Une volonté royale de régler jusqu'au pas et regard des visiteurs pour répondre à ce fantasme d'absolutisme versaillais.
À réécouter sur francemusique.fr.